Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Le M23 oblige les habitants du village Boutaré dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu à quitter leurs habitations. Ils ont deux jours pour quitter Boutaré et aller vivre ailleurs. Raison avancée par le M23, Boutaré serait une zone opérationnelle. 5 cas confirmés de variole de singe Mpox signalés dans la zone de santé de Beni au nord Kivu, notamment à la prison urbaine de Kangwaï depuis le week-end dernier. Les autorités sanitaires appellent au calme et rappellent les mesures de prévention à observer. Francis Kamgem, représentant de la Fondation Hirondelle à RDC, est l'invité de ce journal. Il va parler de la formation d'une dizaine de journalistes de Kinshasa sur les enjeux de la désinformation par des acteurs étatiques notamment. Bonjour à tous. Au nord Kivu, la population du village Boutaré dans le groupement de Tongo au territoire de Rutshuru est sommée depuis deux jours de quitter l'entité pour trouver refuge ailleurs. D'après un notable de la région, l'obligation viendrait des rebelles du 1-23 sous motif que c'est une zone opérationnelle. Isaac Kibira ajoute que les habitants partent dans la précipitation depuis mardi pour se diriger vers Kirumba, Tongo, Bambou et ailleurs. Même la structure sanitaire du village vient de fermer ses portes. Isaac Kibira qualifie cette situation de dramatique et de violation des droits de l'homme. Il appelle le gouvernement et les organisations régionales de défense des droits humains à tout mettre en œuvre pour empêcher ces pratiques de la part du M23. Il a été joint par Sifamagoro.
La M23, basée au niveau de Kabizo, a infligé la population de quitter le plus tôt possible et laisser cette agglomération qui a plus ou moins 22 000 habitants. Alors, dans la précipitation, les uns ont commencé, en tout cas, les voyages hier. Les autres, ce matin, en tout cas, quittent en cascade en se dirigeant vers Kagando, Kirumba. Les autres vers Bambou, les autres vers Tongo, les autres vers Kabizo. Les autres préfèrent aller se cacher dans les hautes montagnes. En tout cas, ça, c'est une violation grave des droits de l'homme. Alors, imaginez-vous toute cette population qui quitte en cascade. Les autres sont malades, les enfants, les mamans enceintes, les vieillards. Tout ce monde-là peuvent être victimes d'une décision, en tout cas, macabre. En tout cas, c'est une situation dramatique si du moins il n'y a pas une intervention rapide pouvant sauver cette population.
Rappelons qu'il n'y a pas longtemps, d'autres populations du même territoire de Rutshuru, notamment celles de certains villages des chefferies de Bwito et Bwisha, avaient été obligées aussi par le 1-23 à abandonner leur village pour aller s'installer ailleurs. Ils veulent, eux, retourner dans leur milieu d'origine. Il s'agit des milliers de déplacés du site de Fataki, territoire de Djougou en Ituri. Ils l'ont dit hier jeudi lors de la visite de la chef de la section des affaires civiles de la MONUSCO dans la province. Tout en saluant la protection de leur site par les casques bleus de la MONUSCO, ces déplacés demandent au gouvernement de sécuriser leur village. Sadiki Aboubakar a fait partie de cette délégation de la section des affaires civiles de la MONUSCO. Voici son reportage.
Ils sont des milliers, en majorité des femmes et des enfants, qui ont passé plusieurs mois pour la plupart, au moins deux ans dans ces sites, implantés à côté de la base militaire des casques bleus népalais de la MONUSCO. Ces déplacés saluent le travail abattu au quotidien par les soldats de la paix pour leur protection. Une femme déplacée témoigne.
Nous saluons le travail de la MONUSCO. Ils nous protègent le jour comme la nuit.
Elle déplore cependant des cas de viol des femmes en quête de vivre dans leur village par des miliciens.
Nous voulons que le gouvernement désarme tous les miliciens qui nous persécutent dans nos villages. C'est ça qui va nous permettre de retourner chez nous et nous ne serons plus violés.
Elle recommande l'effectivité du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS.
Nous demandons à la MONUSCO de continuer avec les contacts menés auprès des différentes couches afin de faciliter les rapprochements entre les différentes communautés, devra donc initier des projets tendant à nous mettre ensemble.
Logo Byakutaga, le président de la jeunesse des Fataki, demande pour sa part à la MONUSCO de multiplier des activités en vue de renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés. La chef des affaires civiles de la MONUSCO, Erin Mouni, a affirmé que la mission onusienne va continuer à jouer son rôle dans le but de protéger les civils. Des retours des Fataki, Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
Des habitants obligés parfois d'abandonner leur village à cause de la tracasserie des militaires, ça se passe dans le groupement Mwacha, dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. D'après la nouvelle société civile qui en donne l'alerte, ces militaires ravissent souvent les biens de la population. Conséquence, à chaque fois qu'ils apparaissent, les habitants se réfugient dans la brousse. D'autres détails avec Aladin Kabika, coordonnateur de cette structure citoyenne dans le territoire de Kasenga. Il est joint par Jean Gandou.
La population est victime d'une forte tracasserie. Le mardi 19/11/2024, les gens ont pris la décision de vider leurs villages respectifs pour crainte de perdre leur vie. Les militaires sont installés dans le groupement KTT, mais ils quittent le groupement KTT pour tracasser les gens dans le groupement Mwancha. Les villages aussi après sont dérangés. Kanikabishi, Kakele, Kakensa, Sunga, Bouimbe, les entités à des sectes agricoles qui ravitaillent même le territoire de Kambov. L'exode de tous ces gens a des conséquences à la vie de toute la population. La nouvelle société civile congolaise demande les retraits immédiats de ces militaires qui ont failli à leur mission et sollicitent l'implication du gouverneur pour que la paix revienne dans ces coins du pays. Ces paisibles citoyens ne vivent que de l'agriculture, les tracasser, les maltraiter pendant qu'ils devraient normalement se sentir protégés.
Le chef de groupement Mwancha confirme cette information. L'administrateur du territoire de Kasenga aussi. Ce dernier indique que cette question a été évoquée mercredi au cours du Conseil de sécurité. Pour lui, les militaires incriminés viennent de Kambov. Il en a déjà parlé avec son collègue de ce territoire voisin pour que des mesures soient prises afin que ces tracasseries cessent enfin. 6 militaires de l'armée régulière en exercice au sein du secteur opérationnel Sokola 2 Sud au Sud Kivu sont aux arrêts à Uvira depuis mercredi. Le commandant secteur intérimaire qui a ordonné leur arrestation les accuse d'avoir torturé une dame et son conjoint à Mikenge, groupement Itombwe dans le territoire de Mwenga. On écoute le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud au Sud Kivu dans cet extrait sélectionné par Jean Kassami.
Ces éléments de la 21e brigade sont aujourd'hui aux arrêts. C'est suite à une vidéo virale mettant en scène des éléments de FRDC en train de torturer, fouetter Madame Alice et son mari, Monsieur Adolphe Amikenge, dans la province du Sud Kivu. Cette vidéo virale, aussitôt arrivée à l'œil du commandant secteur, ce dernier a instruit ses services des renseignements à procéder à l'arrestation immédiate de ces éléments. Pourquoi ? Parce que ces agissements qu'ils ont commis portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Ce sont des agissements qui sont intolérables au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, cruels envers la population civile. Et les agissements de ces militaires ont été contraires à la loi. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous le présente et seront traduits auprès de leurs juges naturels. Et nous, en tant qu'armée, nous tenons à assurer la population dans notre entité du Sud-Sud Kivu que les forces armées de la République démocratique du Congo seront toujours une armée respectueuse des droits de l'homme et des règles d'engagement. Et aucune faute ne restera impunie.
Parmi les militaires incriminés, un caporal et 5 adjudants deuxième classe. L'ONG Human Rights Watch sensibilise les militaires congolais sur le respect de l'éthique et la déontologie de leur corps, ainsi que sur la Déclaration universelle des droits humains et du droit international humanitaire. Dans un entretien accordé à Radio Okapi, le président de cette structure a invité les hommes en uniforme à respecter la population civile. Tigana Buki a dit également suivre des cas des militaires en situation de détention. Il affirme avoir traité plus de 500 dossiers des militaires, dont une centaine ont recouvré leur liberté en 3 ans. Tigana Buki le dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Aux militaires congolais, d'abord, nous les sensibilisons au respect d'abord de leur code d'éthique et de bonne conduite. Les militaires, nous les appelons au respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que vous savez, les militaires doivent être avertis, informés que pendant la guerre, un militaire n'est pas autorisé à commettre n'importe quoi. Quand on sait, nous les invitons au respect des droits humains et du droit international humanitaire pendant la guerre et pendant la paix aussi. Aussi organiser de séminaire de formation à l'intention des militaires dans le sens du respect à l'égard de la population. Parce qu'un militaire doit savoir que sans la population, il ne peut rien faire. Et donc, le militaire est appelé à respecter la population civile. Et nous avons traité plus de 500 dossiers, mais ceux-là qui ont bénéficié de la liberté, ils sont plus de 100. Nous avons démarré les activités en 2021. C'est un programme à durée indéterminée.
L'ONG Human Rights Watch travaille en collaboration avec le service d'éducation civique, patriotique et action sociale de l'armée, SECAS en sigle. Au Nord Kivu, 5 cas confirmés de variole de singe ou mpox ont été enregistrés dans la zone de santé de Beni, notamment à la prison urbaine de Kangwaï, depuis le week-end dernier. Les autorités sanitaires appellent au calme et rappellent les mesures de prévention à observer. Marc Marofimbo.
L'annonce de 5 cas confirmés de variole des singes mpox à la prison centrale de Kangwaï a été faite ce jeudi par le chef de la division provinciale de la santé au Nord Kivu. C'était lors d'une rencontre qui réunissait les responsables des zones de santé, les gestionnaires des structures sanitaires carcérales de Beni, Butembo et Lubero, les représentants de la justice militaire ainsi que les partenaires du comité international de la Croix-Rouge. D'après les premières investigations, la contamination proviendrait probablement de l'extérieur de la prison. En réaction, les autorités sanitaires de Kangwaï ont rapidement transféré les malades à l'hôpital général de référence de Beni pour un isolement strict et une prise en charge adéquate. Le docteur Robert Mouira, responsable du centre de santé pénitentiaire, se veut rassurant, la situation est sous contrôle. Cependant, il exhorte la population à respecter scrupuleusement les mesures barrières, notamment se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon et éviter les contacts physiques ou les rapports sexuels avec les personnes présentant des symptômes. À ce jour, la province de Nord Kivu a recensé 638 cas confirmés de variole des singes avec 2 décès. En réponse à cette crise, le chef de la division provinciale de la santé a également annoncé l'arrivée d'un premier lot de médicaments pour renforcer la lutte contre la maladie. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À Goma, le gouverneur a visité hier les travaux d'agrandissement de l'un des grands collecteurs de la ville, d'une longueur de près de 2 km allant du quartier Biréré jusqu'au lac en passant devant la mairie. Cet ouvrage stratégique permettra de mieux drainer les eaux de pluie. Le général-major Peter Chirimwami explique que ces travaux, qui vont durer 2 mois, vont coûter 1 300 000 $ américains. L'autorité provinciale, qui déplore l'incivisme de certains habitants qui jettent les déchets dans ce collecteur, invite la population à s'impliquer dans l'assainissement de la ville de Goma. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Nous sommes en train de garder la beauté de notre ville. C'est une ville réputée touristique et donc on ne voudrait pas permettre à ce qu'il y ait de l'eau qui stagne sur la chaussée et surtout quand il y a des sachets de plastique. Nous sommes en train d'agrandir le collecteur, l'ouvrir, mettre une couverture amovible de façon qu'on puisse le nettoyer de manière permanente et essayer d'évacuer les déchets. Ça pourrait prendre exactement 2 mois parce que le coût total est de 1 300 000 $. Vous savez, nous devons casser la roche, descendre à 1,50 m, agrandir 1,50 m et puis couvrir avec des dalles amovibles. C'est un travail qui est lourd. Le message à la population, c'est que nous devons garder notre ville propre. Mais aussi, chacun doit être propre à son niveau. Il ne faudrait pas croire que c'est le maire de la ville, c'est le gouverneur qui vont maintenir la propriété de la ville. Chaque habitant de la ville doit se sentir concerné par la propriété de la ville.
La délégation syndicale de la Société nationale d'électricité SNEL salue le processus de redressement de cette entreprise publique. Son président l'a dit au sortir d'une réunion avec le conseil d'administration de la SNEL à Kinshasa. Les deux parties ont également échangé sur plusieurs questions sur la bonne marche de cette entreprise de l'État. Les explications avec Blaise Ndonga Lamayanda.
Ces syndicalistes se réjouissent que les conseillers d'administration et la direction générale de la SNEL aient entamé ensemble ces processus de redressement et de transformation de leur entreprise. Les présidents de cette délégation syndicale a surtout salué le fait que ces mesures de mise en place n'entravent pas les textes réglementaires régissant le fonctionnement de cette entreprise du portefeuille de l'État. Samuel Kaya Kinzonzi.
Les innovations, c'est vraiment important. Et surtout que ça ne frise pas le texte, hein, c'est ça qui est plus important. C'est le conseil d'administration en soi qui examine les dossiers des uns des autres agents. Et finissent, il y a un ordre de service qui va sortir pour désigner l'un ou l'autre dans un des postes. Nous saluons cette transparence. Moi, je pense que nous devons l'apprécier et le soutenir. Et nous attendons qu'il y ait les résultats.
De son côté, le président du conseil d'administration, Luc Badibanga, a balayé du rêveur de la main, le rumeur faisant état d'une prétendue privatisation de la SNEL. Ces faux bruits, alimentés par les réseaux sociaux, commençaient même à créer des remous au sein de la SNEL, comptée parmi les premières sociétés du portefeuille de l'État en termes de contributions annuelles au budget de l'État avec plus d'un milliard de dollars américains.
Actualité internationale.
Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé hier jeudi à Niamey, au Niger, un protocole d'accord sur la fin des frais d'itinérance des communications téléphoniques appelés roaming. L'adoption de ce protocole offrira à nos concitoyens la possibilité de communiquer sans le poids du surcoût d'itinérance qui freine la mobilité et les liens entre les peuples, a déclaré au cours de la cérémonie Wen Lassida Patrice Compaoré, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électriques et des postes du Burkina Faso, rappelant que les trois juntes ont uni en 2024 leur pays en une confédération qui compte environ 72 millions d'habitants. Dans le même temps, les militaires au pouvoir ont choisi de tourner le dos à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une organisation qu'ils jugent instrumentalisée par la France, ex-puissance coloniale avec laquelle ils ont multiplié les actes de rupture.
L'invité.
Francis Kamgem, représentant de la Fondation Hirondelle en RDC, est notre invité. Il revient sur la formation d'une dizaine de journalistes de Kinshasa sur les enjeux de la désinformation, notamment celle orchestrée par des acteurs étatiques. Il s'entretient avec Polly Mouzalia.
Francis Kamgem, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous estimé important de former des journalistes de Kinshasa sur les enjeux de la désinformation?
Vous savez, cela s'inscrit d'abord dans la mission de la Fondation Hirondelle, qui œuvre, n'est-ce pas, pour le renforcement des capacités de tous les acteurs médiatiques. Et donc, la Fondation Hirondelle a organisé cette formation pour répondre à l'un des défis majeurs de notre époque. Il s'agit de la désinformation, notamment surtout celle provenant des sources influentes comme certains acteurs étatiques et affiliés. Et vous savez, c'est un phénomène qui sape la confiance du public dans les médias et menace la cohésion sociale, particulièrement dans un contexte comme celui de la RDC.
Quels sont les points essentiels qui ont été abordés au cours de cet atelier de formation?
Oui, les points abordés sont en alignement avec les objectifs qui étaient assignés à cette formation. Vous savez, les objectifs principaux étaient d'outiller les journalistes congolais avec des compétences avancées et des outils modernes, notamment l'intelligence artificielle, pour identifier, analyser et répondre efficacement à la désinformation. Cette initiative donc vise à renforcer leur capacité à produire des contenus fiables et à jouer le rôle de pilier d'une information crédible et responsable.
Parmi les aspects abordés au cours de cet atelier, il y avait notamment la question de la désinformation produite par des acteurs étatiques, vous l'avez dit. En quoi cela est-il un enjeu pour la République démocratique du Congo et la sous-région des Grands Lacs?
Oui, le contexte actuel de la RDC met en lumière, n'est-ce pas, des questions qui soulèvent beaucoup de questionnements aussi, si vous permettez, autour, n'est-ce pas, de la responsabilité des pays voisins de la RDC dans la situation que vit la République démocratique du Congo. Et ceci étant, cela a entraîné des discours de plusieurs ordres qui pourraient donc contribuer même à alimenter certaines préoccupations, n'est-ce pas, de la part des communautés et des citoyens de la RDC. Et donc, il est important que, face à cela, les journalistes soient capables d'y répondre efficacement, sans parti pris, pour pouvoir continuer leur rôle d'information des communautés. Et ipso facto, va contribuer donc à mitiguer les tensions sociales et l'acceptance même des ressortissants de ces communautés-là. Donc oui, les acteurs étatiques étant des sources influentes de la désinformation, ils méritent donc qu'une attention particulière leur soit accordée pour pouvoir contribuer à mitiguer ce phénomène dans le contexte de la RDC.
Au cours de cet atelier, il était également question de sensibiliser les journalistes sur l'intelligence artificielle, une technologie qui est de plus en plus utilisée pour générer de fausses nouvelles. Quelle est l'ampleur de ce phénomène en RDC et de quelle manière est-ce que les journalistes peuvent aider à sensibiliser le public sur les contenus générés via l'intelligence artificielle?
Oui, vous savez, de nos jours, la désinformation a épousé, n'est-ce pas, un niveau très sophistiqué, grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une vidéo publiée sur un réseau social pourrait prêter à confusion, alors que ce pourrait être des vidéos qui ont été conçues dans les laboratoires. Et donc, il est important que les journalistes soient sensibilisés à cela pour pouvoir savoir avoir les outils techniques nécessaires pour démêler les vrais du faux et pouvoir analyser une vidéo ou un son pour pouvoir mieux sensibiliser dans leur communauté. Parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, fût-il des sons ou des vidéos, n'émanent pas toujours d'une source ou digne de foi. Et donc, pour nous, l'utilisation de ces outils donc va contribuer à renforcer leur capacité et leur éveil, leur résilience même face à ces défis que véhicule, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle.
Après l'étape de Kinshasa, avez-vous prévu de former d'autres journalistes en République démocratique du Congo dans d'autres villes?
Oui, c'était un projet pilote qui couvrait 4 provinces cibles. En dehors de Kinshasa, nous avions été déjà à Goma, nous avions été déjà à Mbujimayi. La session de Lubumbashi est en cours et se termine aussi demain. Donc, à terme, nous aurions mobilisé les journalistes congolais dans 4 principales provinces d'ici la fin de la semaine.
Francis Kamgem, merci.
C'est un plaisir. Je vous remercie aussi.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Alain Goy. Le tout sous la supervision et la coordination de Pele Kipela Mondo. Merci à vous tous qui nous avez suivis.